Pour vous donner donc un aperçu, j'aimerais séparer donc la période entre pré-Covid et 2020. Jusqu'à pré-Covid, on avait noté en fait un déclin, certes relatif, mais quand même un déclin de la pratique au sein de la région. Au jour d'aujourd'hui, on a à peu près 23% des filles âgées entre 15 et 19 ans qui ont été victimes de mutilations génitales féminines. Mais on note quand même, dans les 30 dernières années, le nombre de communautés en fait où la pratique est faite s'est réduite, et on note aussi une baisse dans l'acceptation générale de la pratique au sein des pays, mais aussi au sein des communautés dans lesquelles elle se pratique de manière presque systématique. Donc on était sur une période de déclin, et la période de Covid-19 risque en fait de stopper, de mettre une pause assez importante à ce déclin, et donc d'augmenter le nombre de filles qui risquent d'être victimes de mutilations génitales féminines.
Alors justement, l'ONU signale qu'il y aurait environ 2 millions de femmes et de filles de plus qui seraient à risque de mutilation génitale féminine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En quoi est-ce que la COVID-19 accroît ce risque?
En fait, il y a beaucoup de raisons, mais on dirait il y a deux ou trois principales raisons. Une des premières raisons, c'est que lorsqu'il y a eu donc la crise, en tout cas lorsque la COVID-19 est arrivée, dans beaucoup de pays, on a eu des mesures de limitation de mouvement et de restriction donc de mouvement qui font qu'il est très difficile d'avoir accès aux filles et aux communautés où la pratique donc a lieu et qui sont normalement bénéficiaires de programmes ou même qui sont dans des entreprises d'abandon de la pratique. L'autre élément très important, c'est en fait le fait que beaucoup de filles ont dû arrêter l'école, soit parce que les écoles étaient fermées, soit à cause de la situation socio-économique de leurs parents, elles n'ont plus pu aller donc à l'école. Or, l'école est une plateforme très importante pour avoir accès à ces jeunes filles, mais aussi pour qu'elles puissent bénéficier d'une éducation qui leur permette en fait de pouvoir revendiquer leurs droits, et ce qui est aussi une approche très importante pour la lutte contre les mutilations génitales féminines.
Alors, à quoi appellent l'UNICEF, l'UNFPA, l'ONU face à cette situation par rapport aux mutilations génitales féminines et à la COVID-19? Que faut-il faire?
Ce qu'il faudrait faire, c'est déjà continuer le travail qui a été fait, car on voit que c'est un travail de longue haleine. Ça fait plusieurs années, voire des décennies, que des initiatives ont été mises en œuvre. Il faut continuer donc de travailler, mais travailler surtout ensemble, c'est-à-dire s'unir tant au niveau des partenaires internationaux, globaux, communautaires, leaders religieux, etc., mais aussi au sein des secteurs, c'est-à-dire on a besoin du secteur de la santé, on a besoin de la justice. Et donc c'est un travail vraiment multisectoriel qui est nécessaire. Il faut aussi investir. C'est-à-dire qu'il faut continuer d'investir dans ces programmes-là. Je pense que l'UNFPA et l'UNICEF ont estimé à peu près 2 milliards l'investissement qui serait nécessaire pour pouvoir continuer ce combat et essayer justement de non seulement maintenir les gains qui ont été faits, en tout cas dans notre région, dans les dernières années, mais aussi lutter contre la croissance démographique qui est l'autre grand danger auquel on est confronté en termes de mutilation génitale féminine, puisque le nombre de filles augmente dans les pays. Donc même s'il y a un déclin relatif de la pratique, comme le nombre de filles augmente, on se retrouve avec beaucoup plus de filles qui sont victimes de mutilations génitales féminines.
Merci beaucoup, Ramatou Touré. Une toute dernière question. Vous avez mentionné un taux de 23% de filles d'entre 15 et 19 ans qui ont subi cette pratique dans la région d'Afrique de l'Ouest et centrale.
Oui, on a à peu près un taux donc de 23% de filles âgées entre 15 et 19 ans qui ont subi cette pratique, mais ce taux en fait cache des disparités énormes. Nous sommes la région avec le nombre de pays avec les plus forts taux de mutilations génitales féminines. Ça veut dire que ce taux de 23% cache une situation comme en Guinée qui a plus de 92-93% ou le Mali 86%, avec d'autres pays comme le Togo ou le Bénin où le taux est à 2%. Donc c'est-à-dire que ces 23%, c'est vraiment la moyenne. Mais on a encore donc des pays où quasi systématiquement, toutes les filles sont victimes de mutilations génitales féminines.
Encore aujourd'hui, encore aux jeunes âges, c'est-à-dire que malgré l'abandon dans plusieurs communautés, ces taux restent aussi élevés en Guinée et au Mali.
Oui, ces taux restent élevés. Encore une fois, il y a beaucoup de choses qui sont faites et on note aussi, comme je dis, une baisse de l'acceptation et on a surtout une jeune génération de femmes, mais aussi d'hommes et de garçons, car c'est important aussi de travailler avec les hommes et les garçons qui s'élèvent contre la pratique. Mais lorsqu'on part de taux qui commençaient à 98 puis 94%, on se rend compte que c'est un travail de longue haleine. Donc, on note une tendance au déclin. Mais c'est pour ça qu'il faut redoubler d'efforts pour que cette tendance au déclin se traduise aussi dans les chiffres et qu'on arrive à des taux moindres.